Gaston Leroux, L'épouse du soleil, deuxième partie, livre 4, Le dictateur. À Arequipa, c'est des jours de fête. La population de la ville et de la Campina, de la banlieue, se pressait sur la grande place publique et dans les calles environnantes pour assister au retour bref triomphal du vainqueur de Cusco, le brave général Garcia, que l'on avait déjà surnommé le bon dictateur et qui avait promis à ses partisans de balayer dans les 15 jours le président Ventimiglia, les chambres et tout le système parlementaire qui affirmait qu'il avait ruiné le Pérou. Les Arequipienos étaient préparés à entendre ce langage. La politique avait toujours dominé dans ce pays. C'est de là qu'étaient parties toutes les révolutions. Terriblement turbulents, les habitants d'Arequipa trouvaient qu'il y avait bien longtemps qu'ils n'avaient vu un sauveur à cheval. Aussi, puisque ce jour-là, ils devaient leur apparaître dans le plus bel équipage, avaient-ils mis leurs plus beaux habits. Les femmes se montraient particulièrement coquettes. Des roses dans les cheveux, elles avaient encore les bras pleins de fleurs, celles-ci à destination du héros. Les Indiens, après avoir vendu leurs poules au marché, s'étaient mêlés en grande quantité au mouvement qui poussait tout ce monde sur les pas du vainqueur. La place principale semblait, pour la circonstance, avoir relevé les ruines de ces arcades un peu trop secouées par le dernier tremblement de terre, ou tout au moins elle les avait cachées sous des tapis éclatants et les drapeaux et les oriflammes et les guirlandes. Les vieilles tours des églises lézardées, les fenêtres historiées, les portes massives, les balcons de bois, les galeries fleuries étaient noires de monde. Au-dessus de la ville, le Misti, l'un des plus hauts volcans du monde, dressait un bonnet tout neuf, tout éclatant des neiges de la nuit. Et voilà que les cloches sonnèrent et que la poudre à canon déchira l'air. Puis il y eut un grand silence. Puis il y eut un bruit de trompette. Et 1000 acclamations montèrent vers le ciel. C'était le défilé des troupes qui commençait. Contrairement à ce qui se passe en Europe où les impedimenta de l'armée suivent, ils ouvraient la marche à Arequipa. Aussi jamais des routes n'a donné l'idée de ce que pouvait être le défilé des bandes singulières qui précédaient l'armée. Des Indiens traînant des animaux chargés de bagages, de fusils cassés, d'ustensiles de cuisine, de victuailles, puis tout un régiment de femmes pliant sous le poids de bissacs gonflés d'armes et d'enfants au maillot ou de provisions. On acclamait tout, jusqu'aux lamas porteurs de glorieux trophées, jusqu'aux femmes, aux rabonas comme on les appelle là-bas. Elles venaient de Bolivie, car c'était la Bolivie qui avait sournoisement prêté ses précieuses auxiliaires à Garcia. Les rabonas sont une admirable institution qui tirait d'embarras plus d'une intendance européenne. L'équipement du soldat en campagne comprend là-bas non seulement le fourniment militaire, mais encore une femme qui l'accompagne partout, fait ses provisions, prépare son repas, porte ses bagages et veille entièrement à sa subsistance. Les derniers rabonas passés, ce fut le tour des troupes à la tête desquelles s'était placé naturellement Garcia. Monté sur un magnifique cheval, vêtu d'un uniforme étincelant, il avait l'éclat d'une étoile de première grandeur au milieu de la constellation d'un brillant état-major. Très grand, il dépassait de la tête et de toute la hauteur de ses plumes les généraux et les colonels qui cavalcadaient autour de lui. Son grand panache multicolore flottait glorieusement au vent. Un bruit assourdissant de trompettes guerrières l'accompagnait. Il était beau, il était radieux, il était superbe. Il était content. Il frisait sa moustache noire et montrait ses dents blanches. Il avait des bottes qui brillaient comme des miroirs. Il souriait aux dames quand il passait sous les balcons. Celles-ci l'appelaient par son petit nom « Pedro ». Lui jetait les fleurs qu'elle détachait de leur sein ou le saupoudrait entièrement de feuilles de rose. Ainsi fit-il lentement le tour de la place deux fois. Puis il s'arrêta au milieu entre deux canons, son état-major derrière lui, deux Indiens devant lui tenant leur étendard, composé de petits carrés d'étoffe de différentes nuances. Ces Indiens portaient un chapeau tout couvert de plumes aux couleurs voyantes et avaient sur les épaules une sorte de surplis. À chaque instant, ils agitaient leur singulier drapeau, signe de ralliement et de soumission de toutes les tribus indiennes au nouveau gouvernement. Pendant ce temps, autour de la place, se rangeaient 500 fantassins et 200 cavaliers. Des jeunes filles, habillées de tuniques flottantes et portant les couleurs de Garcia, s'avancèrent alors vers le général, les mains lourdes des couronnes qu'elles allaient offrir au triomphateur. Elles lui débitèrent un petit compliment qu'il accueillit en continuant de friser sa moustache et en montrant ses dents blanches. Il avait aussi de petits hochements de tête protecteurs. Quand elles eurent fini, il se pencha galamment, leur prit leur couronne et se les passa tout au bras, comme ferait un garçon boulanger de sa marchandise en forme de cercle. Et ce bras glorieux, il le leva pour demander le silence. Tout se tut, sur la terre et dans les cieux. Alors le dictateur s'écria « Vive la liberté !» ce qui lui valut une ovation monstre. Il leva encore le bras aux couronnes, on écouta, il commença l'exposé de son programme. « Liberté pour tout, excepté pour le bal. Avec un pareil programme, est-ce que nous avons besoin de parlement ?»« Non, non, non !» rugit la foule en délire. « Vive Garcia !» Et naturellement, on voit 20 000 000 aux gémonies. Muera, muera Ventimiglia, muera, muera el la grande salitre. Le voleur de salpêtre, car on accusait fortement Ventimiglia d'avoir tripoté dans les dernières concessions de phosphate. Garcia était un orateur, il voulut le prouver une fois de plus, et raconta en quelques mots historiques son admirable campagne et comment il venait de combattre les troupes des voleurs de salpêtre dans la plaine de Cuzco avec l'aide de ses braves soldats. Pour être entendu et vu de tous, il se dressa debout sur ses étriers, mais, événement incroyable, indigne de la divinité qui eût dû veiller à ce que rien ne vint troubler un si beau jour de fête, une averse terrible se mit à tomber. Il y eut un commencement de sauve-qui-peut. Ceux qui se trouvaient sous les galeries ne bronchèrent pas, mais les autres se mirent à la recherche d'un abri. Les fantassins eux-mêmes se débandèrent. Quant aux cavaliers, qui étaient des sortes de hussards, ils mirent hâtivement pied à terre, enlevèrent leurs semelles et la chargèrent sur leur tête en guise de parapluie. Ces dames militaires, les rabonas, relevèrent leurs jupons en forme de cloche sur leurs chignons. Garcia était furieux d'un pareil désarroi au plus beau de son triomphe. L'averse ne l'avait pas fait reculer d'un pas, et il menaça de la peine de mort immédiate ceux de ses généraux et de ses colonels qui feraient mine de l'abandonner. Ils se le tinrent pour dit et restèrent sous la douche. Garcia n'était pas même retombé sur sa selle. Toujours droit, toujours debout sur ses étriers, il fixait le ciel d'un regard terrible. Et il lui montra le poing, celui où s'accrochaient les couronnes. Alors le chef d'état-major s'approcha de lui, fit 3 fois le salut militaire et lui dit « Excellence, ce n'est point au ciel qu'il faut s'en prendre. Le ciel n'aurait jamais osé. C'est vous seul, Excellence, qui avez commandé aux nuages avec vos canons. Ce sont les canons de son Excellence qui ont démonté le ciel. » « Vous avez raison, s'écria Garcia, et puisque les canons ont fait le mal, je leur ordonne de le réparer. » Aussitôt, sur son commandement, la batterie fut mise en position et commença un feu continu sous les nuages jusqu'à ce que les éléments se fussent apaisés, ce qui ne fut pas long. Alors il dit de sa voix retentissante, « J'ai eu le dernier mot avec le ciel !» Et il fit rompre les rangs. Je viens trouver le maître du Pérou. Dans un coin de la grande place d'Arequipa, à l'une des fenêtres de l'hôtel du Jockey Club, qui était une espèce d'auberge pour muletiers, le marquis de la Torre et Natividad assistaient avec impatience au triomphe du dictateur. Ils eussent été bien voulu que la cérémonie fût au plus tôt terminée, car ils n'avaient plus d'espoir qu'en Garcia. À Pisco, ils avaient acquis la certitude que l'escorte de l'épouse du soleil s'était embarquée sur le remorqueur même qui appartenait au marquis et qui servait à l'ordinaire à conduire les chalands chargés de guano des îles Chincha à Callao, ce qui prouva une fois de plus que l'entreprise avait été longuement préparée et soignée dans tous ses détails et qu'on y avait employé les Indiens chassés par Marie-Thérèse, Indiens au courant de tous les services de magasinage et de navigation. La pointe que les punches rouges avaient poussée dans la Sierra n'avait eu d'autre but que de donner le change, mais tout le voyage avait été réglé par la Costa pour aboutir, après voyage en mer, de Pisco à Moliendo, à Arequipa, d'où l'on devait gagner le Cusco. Embarqués à leur tour, le marquis, Raymond, François Gaspard, toujours tranquille, et Natividad, qui commençait à désespérer de tout, s'était fait conduire à prix d'or à Moliendo, avait pris le chemin de fer et était arrivé à Arequipa quelques heures après les punches rouges. Ils étaient tombés dans une ville sans dessus-dessous, où les gens ne se donnaient même pas la peine de répondre à leurs questions. Et c'est par le plus grand des hasards qu'ayant reconnu de loin Huascar, qui se promenait paisiblement dans cette cité en ébullition, il l'avait suivi et avait découvert la maison où l'on tenait Marie-Thérèse et son frère prisonnier. C'était une petite bâtisse en adobe, brique cuite au soleil, qui s'élevait à l'extrémité d'une rue, à l'entrée de la Campina sur le bord du Rio Chili. Une dizaine de punches rouges armées montaient la garde ostensiblement autour de la masure. Le marquis et Raymond ne purent même point en approcher. Ils virent se dresser devant eux, à une cinquantaine de mètres de la maison, des gardes civiques qui les invitèrent à rétrograder. Ainsi, les soldats de Garcia veillaient eux-mêmes sur l'épouse du soleil. Une pareille chose dépassait toute imagination. Garcia le sait certainement pas ce qui se passe, dit le mari, sans quoi il aurait vite fait d'enlever ma fille à ces sauvages. Je le connais, il a ses défauts, mais c'est un homme civilisé. Il m'a demandé ma fille en mariage, allons le trouver. Mais Raymond ne voulut pas quitter de vue les murs de la maison où était Marie-Thérèse. Si on l'avait écouté, on n'aurait pas attendu l'entremise de Garcia et on se serait fait fusiller comme des lapins. C'est ce que finit par lui faire entendre Natividad. En ce temps de révolution, c'était vite fait, pom pom, et deux ou trois cadavres de plus dans le Rio Chili. Ça n'était pas pour le faire déborder. Et ce n'était pas non plus cela qui aurait sauvé Marie-Thérèse et son frère. Il promit de ne point faire le fou et se glissa dans une embarcation dont il ne bougea plus, les yeux sur la porte devant laquelle Ponche Rouge et Soldat passaient et repassaient l'arme en bataille. Le marquis et Natividad regagnèrent la seule auberge qui avaient pu leur fournir une chambre, et se firent servir quelques nourritures en attendant impatiemment l'arrivée de Garcia. Plus ils réfléchissaient, plus Cristobal reprenait confiance. Au fond, il était très bien avec Garcia, et puis il lui promettait son appui et celui de ses amis. Il serait son agent à Lima. Enfin, un homme civilisé ne pouvait laisser s'accomplir une chose pareille. Natividad était naturellement de cet avis. L'idée qu'il allait être présenté au vainqueur de Cusco ne lui était point déplaisante. Certes, il ne prononcerait point des paroles qui puissent le compromettre, mais enfin, il est bon de connaître ceux qui peuvent devenir les maîtres du jour. Quant à François Gaspard, on l'avait perdu, ou plutôt on l'avait laissé en contemplation devant la hautaine apparition du Misti, et on ne l'avait plus revu. Sans doute devait-il être maintenant quelque part à prendre des notes sur l'entrée en triomphe du nouveau dictateur. Garcia, dans toute sa gloire, déplut profondément au marquis qui aimait les choses brillantes, mais qui n'en restait pas moins un délicat. « Oh, je ne l'aurais pas cru si panachard, » dit-il à Natividad. À Lima, il était plus simple, mais j'ai toujours pensé qu'il avait du sang de métis dans les veines. « Le succès l'a grisé, » observa Natividad, « il ne sait pas garder la mesure. » « Tout de même, il me rendra mes enfants, » affirma le marquis. Quand Garcia quitta la place, ils le suivirent derrière son état-major après avoir dit un mot à l'aubergiste. À l'entrée de la rue où se trouvait le palais du dictateur, ils furent arrêtés, mais le marquis marqua tant de hauteur, d'insolence et d'impatience, parla si fort de son ami Garcia, qu'on finit par le laisser passer, lui et Natividad, qu'il traînait par la main. Au corps de garde, le marquis donna sa carte. Le sous-officier revint aussitôt, en priant les caballeros de le suivre. Ils ne se le firent pas dire deux fois. Il y avait des soldats partout, mais beaucoup étaient fatigués, et le marquis et Natividad durent enjamber plusieurs militaires qui dormaient, déjà sur les degrés de l'escalier d'honneur, le fusil entre les jambes. Enfin, le sous-officier poussa une porte et ils se trouvèrent sans encombre dans la chambre à coucher de son Excellence qui présidait un conseil de ministres qu'il avait nommé la veille. Quelques-uns de ses hauts fonctionnaires étaient assis sur le lit, d'autres sur la table ou même sur un paquet de linge sale. C'est ainsi que se débattaient les grandes affaires du pays. Ils furent reçus plus que courtoisement. Garcia, qui avait la tête dans une cuvette et qui, en bras de chemise, les manches retroussées, était en train de se faire la barbe, courut aussitôt au devant du marquis en faisant s'envoler autour de lui tout un nuage de mousse de savon. Il s'excusa. « Excusez-moi, seigneur, la simplicité antique !» La simplicité antique. Oh, je vous reçois dans ma chambre comme un ami. Car j'espère bien, monsieur le marquis, que vous venez en ami du nouveau gouvernement. Permettez-moi de vous le présenter. » Il commença par le ministre de la guerre, qui était à cheval sur le traversin, et finit par le ministre des postes et télégraphes, un horrible métis qui mâchait les feuilles de coca sur le paquet de linge sale. « Vous voyez, nous ne faisons pas de manière. Je suis un type, moi, dans le genre de Caton. L'Antiquité, il n'y a que cela pour forger les hommes. Les bons padres nous l'ont appris, et j'ai reçu une excellente éducation. » Bon enfant, il éclata de rire, les pria de s'asseoir où il pouvait, et continua. « Vous comprenez ?» Tout le fla-fla, toute l'étiquette, tout cela n'est pour le dehors, pour la foule. Il faut étonner la foule. Si on n'étonne pas la foule, on est fichu, monsieur le marquis. Ils égayaient un peu et roulaient des prunelles noires énormes. C'était un épouvantail pour enfants. Mais son extérieur funambulesque n'empêchait point qu'il fût magnanime comme Hector et malin comme un singe. Avez-vous vu ma revue, hein? Quel soldat! Quelle armée! Et si vous les voyez au feu, pan, pan, gai, comme s'ils faisaient partir des coëtesses, des pétards! Et la pluie, hein? Avez-vous vu comme elle s'est arrêtée, la pluie? Que dit-on de moi, monsieur le marquis, à Lima? Tout ce verbiage était une tactique. Pendant ce temps, il examinait son homme, il dévisageait aussi, sans qu'il y parût, Navidividad. Il essayait de les deviner, se demandant s'il n'était point envoyé par Ventimiglia en ambassade, et cherchait déjà la réponse qu'il devait faire à une demande d'amnistie ou à un traité de paix avec l'offre rémunératrice de quelque gros gouvernement. Et il se décidait à tout repousser, voulant jouer sur sa carte jusqu'à son dernier sol, et il était très riche, et sa vie par-dessus le marché. Le marquis put enfin parler. Je suis venu trouver le maître du Pérou. À ces mots, Garcia, qui avait fini de se débarbouiller, releva la tête et regarda le marquis au-dessus de sa serviette, dont il se tamponnait le visage, qu'il avait en effet un peu trop hâlé pour un pur sang. Le maître du Pérou. Garcia savait que le marquis de la Torre était un ami de Ventimiglia. Qu'est-ce qu'une pareille démarche, une pareille phrase voulait dire? Dès lors, il ne se tint beaucoup plus que jamais encore sur ses gardes. Quant à Natividad, en entendant le marquis, il avait baissé la tête, rouge comme une cerise. Je suis définitivement compromis, se disait-il. Et il regrettait d'être venu. Le marquis répéta: Oui, je suis venu trouver le maître du Pérou pour lui demander, à lui qui peut tout, à lui dont la devise est liberté pour tout excepté pour le mal, qu'il me fasse rendre ma fille, mon petit garçon, que l'on m'a volé. Que dites-vous? S'écria Garcia, que dites-vous? On vous a volé vos enfants? Mais c'est un crime abominable qui sera châtié de la mort des coupables. Oh, je vous jure, j'en atteste mon ancêtre, Pedro de la Vega, qui a donné sa vie pour la noble cause de la religion contre les infidèles en l'an de grâce 1537, ayant reçu 17 blessures à la bataille de Xoxa, aux côtés de votre parent, monsieur le ministre, marquis, l'illustre Cristobal de la Torre. Le marquis avait toujours prétendu à son cercle que Garcia ne descendait en aucune sorte de ce Pedro de la Vega, et Garcia savait quelle était l'opinion du marquis, mais celui-là n'eut garde de le faire savoir. Mais c'est justement ces infidèles, Excellence, qui m'ont pris ma fille. L'adorable señorita, que me dites-vous? Les infidèles, mais quels infidèles? Excellence, vous connaissez ma fille, Marie-Thérèse. Des Indiens Quichua s'en sont emparés dans mes magasins de Callao. Oh, les misérables, les bandits! Au début, oui, des fêtes de l'Interahimwe pour la sacrifier dans leur temple, comme ils sacrifiaient autrefois les vierges du soleil. Hein, quoi? Que dites-vous? Sacrifier la señorita? Mais qui vous a dit cela? Une histoire, c'est pas possible. Enfin, excellent, je suis sûr qu'on me l'a enlevé. Permettez-moi de vous présenter Monsieur Natividad, l'inspecteur supérieur de la police à Callao, un homme qui, comme moi, vous sera tout dévoué et qui a assisté à tout. Parlez, Natividad. Écrasé par la présentation du marquis, Natividad confirma les dires du marquis en paroles vagues et timides. Il paraissait avoir perdu la tête. Il se disait: Oh, cette fois, ça y est. Si Garcia ne met pas Ventimiglia dans sa poche, je n'ai plus qu'à passer en Bolivie. Mais enfin, pourquoi venez-vous me dire cela à moi? Oh, on vous a volé votre fille à Callao. Bon, n'en suis pas responsable. C'est encore Ventimiglia qui est le maître de Callao. C'est à Maïtibi, là, qu'il faut vous plaindre. Moi, je ne puis malheureusement rien pour vous. » Soupira très hypocritement Garcia, qui ne tenait nullement à se mêler d'une affaire pareille dans laquelle il entrevoyait des démêlés avec les Quichuas, ses partisans et ses alliés. Excellence, ma fille et mon petit garçon, car le petit Cristobal est également entre leurs mains, sont ici, chez vous, dans votre ville, dans votre capitale, et la maison que l'on a transformée pour eux en prison est gardée par vos soldats. Ça, c'est impossible, je le saurais. Et si par un mystère qui reste à éclaircir, il en était ainsi, je n'ai pas besoin de vous dire que vous avez eu raison de venir me trouver, monsieur le marquis. Je connais votre grande âme, excellence. Je savais bien que ce ne serait pas en vain que je m'adresserais à vous. Mes enfants sont sauvés, oh, je l'oublierai de ma vie, et vous pouvez compter sur moi et sur mes amis à Lima, excellence. Et vous savez, si j'en ai des amis. Et monsieur aussi en a, il montrait Natividad. Toute la police de Callao est pour vous. Elle attend impatiemment votre arrivée. Excellence, pardonnez-moi, il n'y a pas un moment à perdre. Accompagnez-nous jusqu'aux portes de la ville, jusqu'au Rio Chili, et mes biens et ma vie sont à vous. Bon, « Mais c'est impossible de me déranger dans le moment, » répliqua le dictateur avec un soupir attristé. « J'attends le conseil d'Angleterre qui m'a demandé une entrevue, mais je mets à votre disposition mon ministre de la guerre qui vous accompagnera et qui vous sera tout aussi utile que moi, mon cher marquis. » Sur quoi il siffla son ministre de la guerre qui se leva avec assez peu d'empressement. Va donc voir ce qui se passe du côté du Rio Chili, lui ordonna Garcia, et reviens bien vite me faire ton rapport. Entre nous, messieurs, je crois que l'on vous a abusé, mais croyez bien que tout ce que je puis faire pour vous dans une aussi étrange aventure sera fait. Et il ouvrit lui-même la porte pour bien leur faire entendre que l'audience était terminée. Le marquis, à défaut de Garcia, entraîna au plus vite le ministre de la guerre, dont les énormes éperons remplissaient de leur bruit de ferraille l'écho sonore de l'escalier d'honneur. Natividad suivait. Garcia referma la porte. « Mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire-là ? » se demanda-t-il tout haut, visiblement très ennuyé. « Je parie qu'Oviedo Runtu est encore dans l'affaire. Oh, s'il est vrai qu'il se souhaite attaquer la señorita de la Torre, ce n'est pas ce qui avancera nos affaires à Lima. » La porte s'ouvrit et un officier annonça le consul d'Angleterre. Celui-ci se présenta avec 1000 compliments à l'adresse du vainqueur. C'était un gros négociant de l'endroit qui avait fourni des vivres à l'expédition et qui avait obtenu des commandes de Garcia en lui promettant l'appui de l'Angleterre. Garcia lui vanta encore ses troupes et le consul trouva l'occasion de déclarer que des soldats ne sont rien sans un bon général. Garcia s'inclina, mais l'autre eut le tort, voulant outrer son compliment d'ajouter « Car entre nous, Excellence, nous les connaissons, ces troupes quichuas. Elles ne valent pas grand-chose, et si vous n'aviez pas été là... »« Nos troupes ne valent pas grand-chose, » hurla Garcia. « Mais savez-vous, monsieur le consul, les étapes qu'elles ont fournies dans la Sierra après un combat terrible ? Y parissait-il ce matin ? Avez-vous vu un seul de mes soldats traîner la patte ? » ?»« Non, mais ils dorment tous dans l'escalier, » répliqua le consul. Mes soldats dorment dans l'escalier. Rendez-moi à mes enfants. Le général ouvrit la porte et courut se pencher au-dessus de l'escalier d'honneur. Là, il vit et entendit sa garde qui ronflait comme un seul homme. Il eut au fait de la réveiller d'une voix de tonnerre qui fit sortir les pauvres hussards de leurs rêves. Ils crurent leur dernier moment venu. Garcia, pâle de rage, appela l'officier et lui ordonna de réunir tous ses hommes sur le palier. La porte de la chambre était restée ouverte. « Mes soldats ne dorment jamais !» cria Garcia au consul d'Angleterre. « Regardez-moi ces hommes-là, monsieur le consul, et dites-moi s'ils ont envie de dormir. Un peu de gymnastique, mes garçons, hein ? Alors, une, deux, pas gymnastique, et sautez tous par la fenêtre !» Son bras terrible leur montrait la fenêtre de sa chambre, qui était à 5 ou 6 mètres au-dessus du pavé pointu de la rue. Il était effrayant à voir. Les soldats n'hésitèrent pas, ils sautèrent tous, et il ne restait plus que l'officier. « Eh bien, commandant, il faut rejoindre vos hommes !» Et comme le commandant hésitait, il le prit sur les épaules et le jeta dans la rue. Le consul d'Angleterre, les ministres et Garcia, qui riaient maintenant avec allégresse, tous se penchèrent à la fenêtre. En bas, les soldats, qui avaient sauté sans se faire trop de mal, ramassaient 3 de leurs camarades qui s'étaient cassés les jambes. Quant à l'officier, on l'emportait, il avait le crâne fendu. Cet exercice était à peine terminé, que le ministre de la guerre arrivait, toujours suivi du marquis et de Natividad. « Eh bien ?» demanda Garcia en refermant la fenêtre. « Eh bien, répondit le ministre en clignant de l'œil du côté de son illustre maître, il s'agit des poches rouges. C'est Oviedo Runtu qui leur a donné cette maison à garder et qui a placé là quelques soldats pour leur prêter main forte. Les poches rouges quittent du reste Arequipa demain soir, se rendant au Cusco. Et alors ? Fit Garcia, qui tortillait nerveusement la pointe de ses énormes moustaches. Et alors, ils ne comprennent rien, l'histoire de la jeune fille enlevée, du petit garçon. Excellence, il faut fouiller cette maison. « S'écria le marquis qui avait perdu tout sang-froid. « Il faut la visiter de fond en comble. « Les misérables y cachent mes enfants. « Il n'y a pas un seul instant à perdre. « Vous ne laisserez pas ces fanatiques emmener mes enfants au Cusco. « Vous savez ce dont ils sont capables. « Ils ne les ont pas enlevés pour rien. « Ce qui se prépare est atroce. « Dans quelques jours, les fêtes de l'Interaimi seront achevées. Et le sacrifice abominable sera consommé. Mais c'est un père, c'est un ami qui vous supplie. Le général Garcia ne laissera pas souiller sa gloire d'un crime aussi horrible qui le mettrait au banc de la civilisation. Jamais la noble population péruvienne ne lui pardonnerait de s'être fait, même inconsciemment, le complice d'une semblable horreur. En tout cas, de n'avoir point tout fait pour l'empêcher. Enfin, excellence, il s'agit de la vie ou de la mort de mon petit Cristobal, le dernier héritier d'une illustre famille qui a toujours combattu pour la civilisation à côté de la vôtre et de ma fille que vous avez aimée. Cette dernière considération n'eut point fait peut-être une profonde impression sur l'esprit du général, qui, comme tous les grands hommes, se vantait de ne point mêler les affaires de cœur à sa politique, mais elle avait été précédée d'une phrase qui le bouleversa de fond en comble. « Le dernier héritier d'une illustre famille qui a toujours combattu pour la civilisation à côté de la vôtre. » Ceci emportait tout. Garcia se retourna brusquement vers son ministre de la guerre. « Enfin, tu as dû voir quelque chose, toi. Tu as pénétré dans cette maison. »« Mais non, excellence, impossible. C'est un lieu défendu. Les punches rouges et les mamakonas sont avec eux les empreintes sacrées qui sont allés chercher à Cajamarca et qu'ils emportent au Cusco pour les dernières solennités de l'Interaimi. Si je violais cette demeure, tous nos soldats qui choient, avertis par ceux qui la gardent sur l'ordre d'Oviedo Runtu, se révolteraient. Laissez-nous, gronda Garcia en jetant tous ses ministres à la porte. Il suffit pour qu'il disparusse d'un froncement de ses sourcils. Et il resta seul avec Natividad et le marquis, qui tremblaient d'énervement, de douleur et d'impatience, et qui ne parvenaient point à retenir ses larmes brûlantes. Monsieur le marquis, oh, s'il est vrai que vos enfants sont aux mains de ces misérables, c'est épouvantable, mais je n'y peux rien pour vous. Le marquis reçut le coup et l'on put croire qu'il allait s'évanouir. Il s'appuya à la muraille et râla. Écoutez, Garcia, parvint-il à prononcer, si cette chose a lieu, je vous en rends personnellement, moi, responsable devant le monde civilisé. Du sang répandu retombera sur votre tête. Jamais le Pérou ne vous le pardonnera. Puis il tomba à genoux et pleura. « Rendez-moi mes enfants !» Garcia se précipita sur lui et l'enleva dans ses bras, puissant comme s'il eût fait d'un tout petit. Mais l'autre s'était déjà ressaisi, lui glissait des mains comme une anguille, se redressait sur ses courtes jambes et lui criait « Laissez-moi, laissez-moi, vous n'êtes qu'un général d'assassins !» Garcia pâlit. Natividad, épouvanté, crut qu'il allait littéralement dévorer le marquis, car on entendit un bruit de grincement de mâchoire. Cristobal s'était déjà dirigé vers la porte, n'ayant plus rien à ajouter à une pareille invective, et s'attendant du reste à être frappé et assassiné par derrière. Soudain, la parole zézayante et douce du dictateur le surprit et l'arrêta. « Ne vous en allez pas encore, monsieur le marquis, je ne puis rien pour vous, mais je peux au moins vous donner un bon conseil. » Cristobal se retourna. L'autre de la main lui faisait signe de s'asseoir. Mais le marquis l'attendait. Il avait déjà perdu trop de minutes précieuses avec cet homme. « Parlez, monsieur, lui dit-il, le temps passe. »« Avez-vous de l'argent ?» demanda brusquement Garcia. « De l'argent, mais pour quoi faire ? Pour, il allait dire, pour vous payer. » Mais il n'acheva pas sa phrase sur un coup d'œil suppliant de Natividad, qui lui faisait des signes d'apaisement derrière le dictateur. Celui-ci s'aperçut que l'on jouait la pantomime derrière lui et se retourna, aperçut Natividad, le prit par le bras et le fit sortir sans autre explication. La porte refermée, il alla s'asseoir à une petite table recouverte de paperasse, posa les coudes sur cette table, laissa retomber sa lourde tête dans la coupe de ses deux mains énormes et prononça ces mots d'affilée à mi-voix, sans regarder le marquis qui restait là debout, méfiant. « Je ne puis rien, moi, contre les Punch Rouges ni contre les Bamakonas. Vous avez entendu mon ministre de la guerre tout à l'heure. L'endroit où ces prêtres ou ces prêtresses passent, la maison qu'ils habitent sont sacrées. Ils traînent avec eux des reliques et les stigmates de leur Alaoupa. Vous venez de dire qu'ils ont également avec eux vos deux enfants prisonniers. Mais rien ne me le prouve. Et rien ne peut me le prouver, attendu que cette preuve, il m'est impossible, il m'est défendu d'aller la chercher. Eh bien, cependant, j'admets avec vous que ce soit l'horrible vérité. « Raisonnez avec moi. Qu'est-ce qui garde vos enfants ? Vous me répondez, vos soldats, c'est faux. Moi, je ne suis pour rien dans tout cela. Qui les a mis là ? C'est Oviedo Runtu, ce sont les soldats de Oviedo Runtu. Et qui est-ce que Oviedo Runtu ? Vous l'avez sans doute rencontré à Lima, vous avez peut-être eu affaire à lui. Vous vous dites, c'est un commis de la banque franco-belge. Moi, je réponds oui, oui et non. C'est un commis de banque, mais c'est aussi celui auquel obéissent actuellement tous les Indiens qui choisissent, civils et militaires. C'est extraordinaire, mais c'est ainsi. Cet Indien qui se fait habiller chez un tailleur à la mode de Lima, ce Quichua a appris à lire, à écrire, à compter. Il s'est contraint à gagner sa vie comme un humble employé, mais en somme à faire un métier de civilisé. Et pendant ce temps, il a vécu chez nous, avec nous, s'est mêlé à nos affaires, à nos mœurs, nous a étudiés, s'est rendu compte du mécanisme de nos institutions financières, base de tout bon gouvernement et sa force. Il a gagné 200 soles par mois derrière un comptoir. Et il est peut-être roi, je n'en sais rien, mais c'est bien possible. En tout cas, il a rêvé la régénération de sa race et le bouleversement du Pérou à son profit. Tous les chefs Quichua et Aymara sont ses serviteurs. Huascar, que vous avez eu chez vous, est son bras droit. Au moment où moi, je soulevais la province d'Arequipa pour mon compte, Huascar est venu me trouver de la part de Villodoruntu et m'a offert son alliance. Et je n'ai pas pu la refuser. Et je marche la main dans la main avec Villodoruntu parce que je ne puis pas faire autrement. M'avez-vous compris maintenant, monsieur le marquis? Ce n'est pas moi qui vous gêne dans cette affaire. C'est Villodoruntu. Vous le trouvez devant vous comme je l'ai trouvé devant moi. Je le regrette pour vous, croyez-le bien, autant que pour moi. C'est lui, en effet, qui a tout conduit, qui a préparé le rapt de ma fille et qui l'a exécuté avec les ponches rouges. Vous voyez bien. Ne faites donc pas retomber le poids d'une affaire aussi abominable sur la tête d'un homme qui a rêvé de mettre le Pérou à la tête des nations civilisées de l'Amérique du Sud. Momentanément, j'ai les mains liées par cet homme. Mais on s'expliquera, et je vous prie de croire que j'aurai le dernier mot. Car au fond, malgré son complet veston de chez Arat, c'est un sauvage. Sauvage, il commande à des sauvages et avec des moyens naturellement destinés à frapper leur imagination. L'interahimi, dont nous entendons ordinairement si peu parler dans nos milieux, a été préparé cette année d'une façon exceptionnelle. Oviedo a pu promettre à ses congénères une belle proie, une belle victime. Avec les mœurs de nos Quichuas, de nos Incas, car il ne faut pas nous le dissimuler, nous avons toujours affaire aux Incas. Tout est possible. Ce qui est possible aussi, c'est qu'il aime votre fille et qu'il en soit embarré de force pour lui tout seul. Écoutez-moi, je vous prie, j'examine toutes les hypothèses et je conclus en vous répétant, quelle que soit l'hypothèse, je ne puis rien pour vous, rien que de vous donner un conseil. Ces punches rouges, nous ne pouvons pas les combattre, mais vous, vous pouvez les séduire. Ce sont des Quichuas, on les a tous avec de l'argent. Achetez-les, voilà pourquoi je vous ai demandé, avez-vous de l'argent? Non, je n'en ai pas, répondit le marquis, qui avait écouté ardemment la parole rapide du dictateur. Je suis parti à la rage, je n'ai plus d'argent. Eh bien moi, monsieur, j'en ai. Et il siffla d'une certaine manière. Aussitôt la porte s'ouvrit et le ministre des Finances se présenta. « Où est le trésor de guerre ?» demanda Garcia. « Sous le lit, » répondit l'autre. Et il se jeta à genoux pour tirer à lui une valise de bois cerclée de fer qu'il traîna devant la table où Garcia était assis. « Eh bien, va-t'en, qu'est-ce que tu attends ?» Quand ils furent seuls, le général sortit une petite clé de son portefeuille ouvrit la valise et en tira une liasse de billets de banque qu'il jeta sur la table. Puis il traîna lui-même, cette fois le trésor de guerre, jusque sous le lit, et l'ayant repoussé d'un dernier coup de pied, il prit la liasse sur la table, la donna au marquis et lui dit « Prenez, vous les compterez et vous me les rendrez quand je serai président à Lima. Il y a là de quoi blanchir tous les ponchos, croyez-moi. Ce sont des petites images dont ces messieurs connaissent la valeur. Et c'est peut-être bien Oviedo Runtu lui-même qui les leur a apprises. Allez, adieu, monsieur, et bonne chance. » « Excellence !» s'écria le marquis en redonnant son titre à cet homme qu'il venait de traiter d'assassin. « Je ne vous remercie pas, mais si je réussis... »« Oui, 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 je sais, vos biens, votre vie m'appartiennent. »« Excellence, encore un mot. Je vais essayer également de séduire vos soldats qui gardent la maison avec les punches rouges. » « Séduisez, séduisez !»« Et si je ne réussis pas, Excellence, je vous avertis que, si faibles soyons-nous et si sûrs que nous puissions être en avance de notre défaite et de notre mort, nous allons attaquer, mes amis et moi, les prêtres du soleil et leur escorte. Je puis compter sur votre neutralité ?»« Mais comment donc ?» s'exclama Garcia, bon enfant. Et si par hasard vous faites un peu bobo à l'Oviedo, au descendant du Yahuana Capac, vous savez, oh, je vous ferai pas passer devant un conseil de guerre. Ils se serrèrent les mains et le marquis se sauva. Il n'avait pas passé le seuil que Garcia haussa les épaules. Sa fille est perdue, dit-il, mais je l'ai achetée lui, l'imbécile. Tout cela ne serait pas arrivé s'il me l'avait donné en mariage. » Le marquis avait retrouvé Natividad qui l'attendait, très anxieux, au pied de l'escalier d'honneur qu'il avait descendu un peu vite sous la poussée de l'extraordinaire Garcia. Dans la rue, il rencontrait Raymond qui venait les chercher. Pour que Raymond eût abandonné son poste d'observation, il fallait que quelque chose de très grave se fût passé. Le jeune homme était pâle, très agité. « Qu'y a-t-il ? » lui cria le marquis. Raymond lui dit « Venez vite, nous retournons à l'auberge. Il est temps de prendre un parti sérieux, un parti désespéré, mais il faut faire quelque chose. Je meurs, qu'a dit Garcia ?» qui ne pouvait rien pour nous, mais il m'a donné un conseil et de l'argent, et peut-être tout n'est-il pas perdu. Mais pourquoi avez-vous quitté votre poste d'observation, vous ? Qu'est-il arrivé ? Ils sont toujours là ? Oui, un seul être est sorti de la maison gardée par les punches, Huascar. Oh, je l'ai suivi, j'étais décidé à profiter du premier endroit un peu solitaire, pour avoir avec lui une explication définitive. Je voulais lui demander de nous rendre Marie-Thérèse ou le tuer comme un chien. Mais il a pris tout de suite par la grande cahier, est arrivé sur la place et, à ma stupéfaction, a pénétré dans notre auberge. Il ne m'avait pas vu. J'ai pu me dissimuler sous la voûte pendant qu'il se tenait dans le cabaret. J'ai entendu qu'il demandait au patron à parler au marquis de la Torre. Celui-ci lui a répondu que vous étiez absent pour le moment et que vous deviez être allé chez le général dictateur, car en sortant vous aviez demandé l'adresse du palais du gouvernement. Sur quoi Huascar a demandé si vous deviez revenir. L'aubergiste a répondu que vous reviendriez certainement. Alors Huascar a dit « J'attendrai, et je viens vous prévenir qu'il attend. » « Ils sont sauvés !» s'écria le marquis, dont la mine s'éclairait au fur et à mesure que parlait Raymond. « Ils sont certainement sauvés. Car que me voudrait Oscar? Pourquoi voudrait-il me parler s'il n'avait pas l'intention de sauver mes enfants? Ben, c'est ce que je me suis dit tout d'abord, répliqua Raymond. Mais je l'ai examiné la dérobée et cet homme m'a l'air bien sombre. Il me fait peur depuis que je le connais du reste. Il me fait peur. N'oublions pas que nous avons affaire à un fanatique et qu'il a à se venger de Marie-Thérèse. La marquise, qui était la bonté même, l'a sauvée de la plus affreuse misère. Je ne peux pas croire qu'il l'ait oubliée, dit précipitamment Cristobal, qui avait hâté le pas. J'ai été bien étonné de le voir dans cette affaire, mais mon intime pensée a toujours été qu'il s'y trouvait mêlé malgré lui, et que peut-être il n'y prenait part que dans le but de sauver Marie-Thérèse. C'est certainement lui qui m'a envoyé ou fait envoyer l'avertissement que j'ai trouvé trop tard, hélas, à mon cercle. Puissiez-vous dire vrai, monsieur, répliqua Raymond, qui était loin de partager la confiance du marquis. Mais puisqu'il est venu à nous, ne le quittons pas que nous n'ayons percé son dessein. Et je vous jure que je suis prêt à l'égorger comme un mouton s'il ne répond pas comme il convient à nos questions. N'oublions pas, Raymond, qu'ils ont des otages. Mais des otages qu'ils massacreront, même si nous épargnons Oscar. Ah, monsieur, j'ai hâte de me battre, j'ai hâte de tuer, je voudrais mourir. Et moi, je voudrais bien sauver mes enfants, monsieur. Cela finit d'un ton si glacé que Raymond en eut froid au cœur. Il ne prononça plus une parole jusqu'à l'auberge. Car ils y arrivaient. Natividad aperçut sous la voûte, collée contre le mur, se dissimulant, ou plutôt croyant qu'il se dissimulait derrière une charrette et regardant avec une étrange fixité ce qui se passait dans le cabaret où se trouvait Oscar, une bien singulière figure. C'était un grand vieillard, sec, décharné, dont la carcasse tremblante s'appuyait sur un bâton de berger. Un manteau en loques flottait sur ses épaules. Des mèches de cheveux blancs descendaient le long d'un visage effroyablement pâle, aux yeux décolorés. Natividad s'était arrêté et considérait ce spectre en se demandant « Mais où ai-je donc déjà vu cette figure-là? Cette figure ne m'est pas inconnue. » Le marquis avait passé rapidement en disant à Raymond « Allez trouver Oscar, dites-lui que je l'attends dans notre chambre et amenez-le-moi. » L'escalier qu'il fallait prendre pour monter au premier étage avait sa première marche sous la voûte. Le marquis, en y posant le pied, vit Natividad arrêté et regardant l'homme dont nous venons de faire la description. Alors il fixa l'homme à son tour, fut frappé de cette physionomie fantomatique, et tout en continuant de gravir les marches, se demanda lui aussi « Mais où donc ai-je vu ce spectre ? Oh, ce n'est pas la première fois que je le rencontre !»